Chapitre 19. Le moment me parut favorable pour lui montrer la vérité tout entière. Je lui représentai dans un rapport confidentiel sur notre situation présente combien il devenait urgent de mettre un terme à un système politique qui tendait à nous aliéner tous les peuples. Et d'abord je le suppliai d'accomplir l'œuvre de la paix, soit en faisant sonder l'Angleterre, soit en lui adressant des propositions raisonnables, ajoutant que jamais il n'avait été plus en mesure de se faire écouter, que rien n'égalait le pouvoir de ses armes et qu'il n'y avait maintenant plus de doute sur la solidité de ses transactions avec les deux plus puissants potentats de l'Europe après lui-même. Qu'en se montrant peu exigeant relativement au Portugal et disposé d'un autre côté à évacuer la Prusse, il ne pouvait manquer d'arriver à la paix et au maintien de sa dynastie en Italie, à Madrid, en Westphalie et en Hollande. Que là devaient être posées les bornes de son ambition et d'une gloire durable. Que c'était déjà une assez brillante destinée d'avoir fait renaître l'empire de Charlemagne, mais qu'il fallait donner à cet empire des garanties pour l'avenir. Qu'à cet effet, il devenait pressant, comme je lui avais déjà représenté, de dissoudre son mariage avec Joséphine et de former un autre nœud réclamé autant par la raison d'État que par les considérations politiques les plus décisives. Car en se voyant revivre, il assurait en même temps la vie à l'Empire, que lui seul pouvait déterminer s'il était préférable de former une alliance de famille avec l'une des deux grandes cours du Nord, soit la Russie, soit l'Autriche, ou de s'isoler dans sa puissance et d'honorer sa propre patrie en partageant le diadème avec une Française toujours assez riche de sa fécondité et de ses vertus. Mais qu'au total, le plan inspiré par le besoin de fixité sociale et de la permanence monarchique croulerait dans sa base si la paix générale n'en devenait pas le complément nécessaire. Que j'insistais fortement sur ce point, le suppliant de me faire connaître ses intentions sur les deux vues principales de mon rapport et de mes conclusions. Je n'obtins qu'un assentiment tacite, le seul qu'on m'eût accoutumé d'espérer dans les matières graves qui étaient censées être hors de mes attributions. Mais je vis que la dissolution du mariage était arrêtée pour une période prochaine, Cambacérès ayant été autorisé à en conférer avec moi. J'en fis répercuter aussitôt la rumeur dans les salons, et on en chuchotait partout que Joséphine, plongée dans la sécurité, n'en avait aucun éveil, on la ménageait et on la plaignait. Je vis également que l'empereur, soit par orgueil, soit par politique, penchait à serrer son nouveau nœud dans une des vieilles cours de l'Europe et que la dissolution préalable avait surtout pour objet de les stimuler à faire des ouvertures ou de les préparer à en recevoir. Cependant, l'appareil de la puissance ne fut pas négligé. Napoléon, tenant sous sa dépendance absolue les rois qu'il avait faits, les mande à sa cour et le 3 décembre exige qu'ils assistent dans la métropole au Te Deum chanté pour ses victoires et pour l'anniversaire de son couronnement. À la sortie de Notre-Dame, il court faire l'ouverture du corps législatif. Là, dans un discours présomptueux, il s'exprime en ces termes « Lorsque je reparaîtrai au-delà des Pyrénées, le léopard épouvanté cherchera l'océan pour éviter la honte, la défaite ou la mort. » C'était avec ces grandes images qu'il cherchait à pallier les difficultés de la guerre d'Espagne, s'abusant lui-même peut-être, car il n'avait sur la nature de cette guerre que des idées incomplètes. Le lendemain, dînant en tête-à-tête avec Joséphine, il lui fit part de sa résolution. Joséphine s'évanouit. Il fallut toute la rhétorique de Cambacérès et toute la tendresse de son fils Eugène, soit pour la calmer, soit pour la disposer à la résignation. Le 15 septembre, on procéda cérémonieusement à la dissolution du mariage. Tout s'étant terminé dans les formes, un officier de la garde fut chargé d'escorter Joséphine à Malmaison, tandis que de son côté, l'empereur se rendait au Grand Trianon pour y passer quelques jours en retraite. Tout était déjà monté dans le mystère de la chancellerie pour ouvrir une négociation parallèle auprès des deux cours de Saint-Pétersbourg et de Vienne. Dans la première, on voulait obtenir la grand-duchesse, sœur du tsar, et en Autriche, il s'agissait de l'archiduchesse Marie-Louise, fille de l'empereur François. On tâta d'abord la Russie. L'empereur Alexandre se montrait favorable, disait-on dans le conseil, mais il y avait dissentiment d'opinion dans la famille impériale russe. Ce qui eut lieu à Vienne, presque en même temps, mérite de ma part quelques préliminaires auxquels je ne suis pas tout à fait étranger. Un des hommes les plus marquants dans les fastes de la politesse et de la galanterie de la cour de Louis XVI était, sans contredit, le comte Louis de Narbonne. On s'était complu à le rendre célèbre en tirant de ses traits frappants de ressemblance avec Louis XV une induction qui supposait un auguste mystère à sa naissance. Il avait aussi travaillé lui-même à sa célébrité par son amabilité parfaite, par sa liaison intime avec la femme la plus extraordinaire du siècle, Madame de Staël, et enfin par la manière facile et chevaleresque avec laquelle il avait exercé dans le département de la guerre un ministère constitutionnel au déclin de la monarchie. Forcé d'émigrer, en but aux traits des républicains exaltés et des royalistes extrêmes, il avait d'abord été délaissé à sa rentrée en France. Plus tard, je l'accueillis avec tout l'intérêt que m'inspiraient les patriotes de 1789 qui avaient voulu concilier la royauté et la liberté. Aux grâces des manières, il joignait les tressaillants de l'esprit et souvent même la justesse et la profondeur des vues. J'avais fini par le recevoir tous les jours. Tel était le charme de sa conversation qu'au milieu de mes travaux fatigants, j'y trouvais le délassement le plus doux. Tout ce que me demandait M. de Narbonne dans l'intérêt de ses amis et de ses connaissances, je le lui accordais. Je parlais de lui à l'empereur, j'eus d'abord de la peine à le lui faire goûter. Il redoutait ses anciens rapports avec Madame de Staël, en qui Napoléon voyait une ennemie implacable. J'insistais, et l'empereur finit par se le faire présenter. L'engouement s'ensuivit et Napoléon se l'attacha d'abord comme officier d'ordonnance. Le général Narbonne le suivit dans la campagne d'Autriche, où il fut nommé gouverneur de Trieste avec une mission politique dont j'avais connaissance. Au retour de l'empereur et quand l'affaire du mariage fut entamée, je le lui désignais comme le personnage le plus capable de sonder adroitement les intentions de la cour d'Autriche. Il était hors de convenance et des usages que Napoléon fît aucune démarche directe avant de connaître positivement les dispositions de l'empereur Alexandre. Or, les instructions envoyées au comte de Narbonne se bornèrent à l'autorisation d'agir en son nom propre et privé avec tout le ménagement et la dextérité que comportait une affaire si délicate et si majeure. Il se rendit à Vienne au mois de janvier 1810, dans le seul but apparent d'y passer pour rentrer en France par l'Allemagne. Là, dressant bientôt ses batteries, il vit d'abord M. de Metternich et fut ensuite admis auprès de l'empereur François. La question du mariage occupait alors toute l'Europe et ce fut naturellement un des sujets de son entretien avec l'empereur d'Autriche. M. de Narbonne ne manqua pas de jeter en avant que les plus grands souverains de l'Europe briguaient l'alliance de Napoléon. L'empereur d'Autriche témoigna aussitôt sa surprise de ce que la cour des Tuileries ne songea point à sa maison, et il en dit assez pour que M. de Narbonne sût à quoi s'en tenir. Il m'écrivit le même jour en me faisant part des insinuations de la cour de Vienne. Il crut pouvoir en conclure qu'une alliance avec une archiduchesse entrerait dans les vues de l'Autriche. À l'arrivée du courrier, je courus communiquer sa dépêche à l'empereur. Jamais je ne le vis si radieux ni si satisfait. Il fit sonder le prince de Schwarzenberg, ambassadeur d'Autriche à Paris, ordonnant que cette négociation particulière fût conduite avec une telle circonspection que l'ambassadeur se trouvât engagé sans qu'il le fût lui-même. Il s'agissait bien de ne pas choquer l'empereur Alexandre en lui faisant soupçonner qu'on avait ouvert une double négociation et de faire supposer à l'Europe qu'on avait le choix entre une grand-duchesse et une archiduchesse, car pour la princesse de Saxe, il n'en avait été question que pour la forme. Le 1er février, Napoléon convoqua aux Tuileries un grand conseil privé composé des grands dignitaires, grands officiers, tous les ministres, le président du Sénat, celui du corps législatif et des ministres d'État, présidents des sections du Conseil d'État. Nous étions en tout 25 personnes. le conseil assemblé et la délibération ouverte, le ministre Champagny communiqua d'abord les dépêches de Coulincourt, ambassadeur en Russie, et les présenta comme si le mariage avec une princesse russe n'eût tenu qu'à l'accord de l'exercice public de son culte et à l'érection à son usage d'une chapelle du rite grec. Il fit connaître ensuite les insinuations et les désirs de la cour de Vienne. Ainsi, on paraissait n'être que dans l'embarras du choix. Il y eut partage d'opinions. Comme j'étais dans le secret, je m'abstins d'émettre la mienne. Je m'esquivais même à dessein avant la fin de la délibération. Au lever de la séance, le prince Eugène fut chargé de faire au prince Schwarzenberg l'ouverture diplomatique. L'ambassadeur avait reçu ses instructions et tout fut consenti sans difficulté. Ainsi, le mariage de Napoléon avec Marie-Louise fut proposé, discuté, décidé dans le conseil et stipulé dans les 24 heures. Le lendemain de la tenue du conseil, un sénateur de mes amis, toujours très au fait des nouvelles, vint m'informer que l'empereur s'était décidé pour une archiduchesse. Je jouais la surprise et en même temps le regret de ce qu'on n'avait pas choisi une princesse russe. « En ce cas, m'écriai-je, je n'ai plus qu'à faire mon paquet !» saisissant ainsi un prétexte pour donner à mes amis l'éveil sur ma prochaine disgrâce. Doué de ce qu'on appelle tact, j'avais un secret pressentiment que mon pouvoir ministériel survivrait peu au nouvel ordre des choses qui allait altérer, sans aucun doute, les habitudes et le caractère de Napoléon. Je ne doutais nullement que, devenu l'allié de la maison de Lorraine, se croyant sûr désormais du cabinet d'Autriche et par conséquent d'être en mesure d'assujettir la vieille Europe à sa volonté, il ne se crut en état de se débarrasser de son ministre de la police, ainsi qu'il avait déjà cru pouvoir s'en passer après la paix d'Amiens. Je savais d'ailleurs d'une manière certaine qu'il ne me pardonnerait jamais d'avoir levé tout seul une armée, faire embarquer les Anglais et sauver la Belgique. Je savais enfin que depuis cette époque, ma liaison avec Bernadotte lui était devenue suspecte. Plus il concentrait en lui-même ses dispositions peu favorables à mon égard, plus je les devinais. Elles se décelèrent quand je lui proposai de mettre en liberté, à la prochaine occasion de la solennité de son mariage, une partie des prisonniers d'État et de lever un grand nombre de surveillances. Au lieu d'adhérer à ma proposition, il s'éleva avec une feinte humanité contre la déplorable arbitraire qu'exerçait la police, me disant qu'il avait songé à y mettre un terme. Deux jours après, il m'envoya un projet de rapport fait en mon nom et le décret impérial qui, au lieu d'une prison d'État, en établissait six, statuant en outre que désormais, nul ne pourrait être détenu qu'en vertu d'une décision du conseil privé. C'était une amère dérision, le conseil privé n'étant pas autre chose que la volonté de l'empereur. Le tout était si artificieusement présenté qu'il me fallut consentir à produire le projet au Conseil d'État, où il fut délibéré et adopté le 3 mars. Voilà comment Napoléon éluda de mettre un terme aux arrestations illégales et comment il voulut faire rejaillir sur la police tout l'odieux des détentions arbitraires. Il m'astreignit aussi à lui présenter le tableau des individus mis en surveillance. La surveillance était une mesure de police très supportable que j'avais imaginée précisément pour soustraire aux rigueurs de la détention arbitraire les nombreuses victimes que signalaient et poursuivaient chaque jour les délateurs à gages, et j'avais bien de la peine à contenir dans certaines bornes. Cette odieuse milice occulte était inhérente au système monté et maintenu par l'homme le plus ombrageux et le plus défiant qui peut-être ait jamais existé. C'était une des plaies de l'État. J'avais parfois la faiblesse de croire qu'une fois affermi et tranquille, Napoléon adopterait un système de gouvernement plus paternel et en même temps plus conforme à nos mœurs. Sous ce point de vue, le mariage avec une archiduchesse donnait des espérances, mais je sentais de plus en plus qu'il lui fallait la sanction de la paix générale. Ne pouvais-je pas moi-même contribuer à la paix, comme j'avais coopéré par mon impulsion à la dissolution d'un nœud stérile et à l'alliance avec l'Autriche? Si je parvenais à ce but, je pouvais, par l'importance d'un pareil service, triompher des préventions de l'empereur et reconquérir toute sa confiance. Mais il fallait d'abord pressentir l'Angleterre. J'hésitais d'autant moins que le changement survenu dans la composition du ministère anglais me donnait de justes motifs d'espoir. Le mauvais succès de la plupart de ces opérations dans cette dernière campagne avait excité le mécontentement de la nation anglaise et amené de graves dissensions parmi les ministres. Deux d'entre eux, Lord Castlereagh et M. Canning, en étaient même venus à un combat singulier après avoir donné leur démission. Le cabinet s'était hâté de rappeler de son ambassade d'Espagne le marquis de Wellesley pour succéder à M. Canning dans la place de secrétaire d'État des Affaires étrangères et de mettre à la tête du secrétariat de la guerre le comte de Liverpool, ci-devant Lord Harrisbury. Je savais que ces deux nouveaux ministres avaient des vues hautes, mais conciliantes. D'ailleurs, la cause de l'indépendance espagnole était alors presque désespérée par suite de la victoire d'Ocana et de l'occupation de l'Andalousie, et je m'imaginais que je retrouverais le marquis de Wellesley plus accessible à des ouvertures raisonnables. Or, je me déterminais à sonder le terrain, et cela en vertu des pouvoirs dont j'avais usé fréquemment d'envoyer des agents au dehors. J'y employais M. Ouvrard pour deux raisons. D'abord parce qu'une ouverture politique à Londres ne pouvait guère être entamée que sous le masque d'opérations commerciales. Et ensuite parce qu'il était impossible de confier une mission aussi délicate à un homme plus rompu aux affaires, d'un caractère plus insinuant et plus entraînant. Mais comme M. Ouvrard n'aurait pu se mettre sans inconvénient en rapport direct avec le marquis de Wellesley, je lui adjoignis M. Fagan, ancien officier irlandais, qui, chargé des premières démarches, devait lui ouvrir, pour ainsi dire, les voies de la chancellerie britannique. Je résolus de ne faire partir M. Ouvrard qu'après les fêtes du mariage. L'entrée de la jeune archiduchesse dans Paris eut lieu le 1er avril. Rien de plus magnifique et de plus touchant. Quelle belle journée, quelle hilarité dans une si prodigieuse affluence. La cour repartit aussitôt pour Saint-Cloud, où se fit l'acte civil, et le lendemain, la bénédiction nuptiale fut donnée à Napoléon et à Marie-Louise par le cardinal Fesch dans une des salles du Louvre, garnie des flammes resplendissantes de parures et de pierreries. Les fêtes furent splendides, mais celle que donna le prince de Schwarzenberg au nom de son maître offrit un présage sinistre. Le feu pris à la salle de bal construite dans le jardin de son hôtel, et en un instant la salle fut embrasée. Plusieurs personnes périrent, entre autres la princesse de Schwarzenberg, femme du frère de l'ambassadeur. On ne manqua pas de comparer l'issue malheureuse de cette fête donnée pour célébrer l'alliance des deux nations à la catastrophe qui avait marqué les fêtes du mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette. On en dira les plus fâcheux présages. Napoléon lui-même en fut frappé. Comme j'avais donné à la préfecture tous les ordres convenables et qu'elle était spécialement chargée de cette partie de la surveillance publique, ce fut sur elle, ou du moins sur le préfet de police, que vint éclater la colère de l'empereur. Il destitua Dubois et, malheureusement, il fallut un désastre public pour être débarrassé de cet homme qui avait tant de fois dénaturé le but moral de la police. À la cour comme à la ville, le mot d'ordre fut désormais de complaire à la jeune impératrice qui, sans aucun partage, captivait Napoléon. C'était même de sa part une sorte d'enfantillage. Je savais qu'on épiait l'occasion de prendre la police en défaut au sujet de la vente de certains ouvrages sur la Révolution qui auraient pu choquer l'impératrice. Je donnais des ordres pour en faire la saisie, mais telle était la cupidité des agents de la préfecture que ces mêmes ouvrages étaient vendus clandestinement par ceux-mêmes qu'on chargeait de les mettre au pilon. Vers la fin d'avril, l'empereur partit avec l'impératrice pour visiter Middelbourg et Flessing. Il se rendit aussi à Bréda. Ce voyage me fut fatal. L'empereur, frappé de mes réflexions sur le besoin de la paix générale, avait essayé, sans me mettre dans le secret, d'ouvrir des négociations secrètes avec le nouveau ministère anglais par l'entremise d'une maison de commerce d'Amsterdam. Il en résulta une double négociation et de doubles propositions, ce qui choqua singulièrement le marquis de Wellesley. Les agents de l'empereur et les miens, devenus également suspects, furent également éconduits. L'empereur, surpris d'une conclusion si brusque et si inattendue, employa, pour en découvrir la cause, sa contre-police et ses limiers des affaires étrangères. D'abord, il n'y eut que des informations vagues, mais il put juger bientôt que sa négociation avait été traversée par d'autres agents dont il ignorait la mission. Ses soupçons se portèrent d'abord sur M. de Talleyrand, mais à son retour, ayant reçu de nouvelles pièces et s'étant fait faire un rapport circonstancié, il reconnut que M. Ouvrard avait dirigé les ouvertures faites à son insu au marquis de Wellesley. Et comme on savait M. Ouvrard en rapport avec moi, on en inféra que je lui avais donné des instructions. Le 2 juin, étant à Saint-Cloud, l'empereur me demanda en plein conseil ce que M. Ouvrard était allé faire en Angleterre. « Connaître de ma part, lui dis-je, les dispositions du nouveau ministère relativement à la paix d'après les vues que j'ai eu l'honneur de soumettre à votre majesté avant son mariage. Ainsi, reprend l'empereur, vous faites la guerre et la paix sans ma participation. » Il sortit et donna l'ordre à Savary d'aller arrêter M. Ouvrard et de le conduire à Vincennes. En même temps, je reçus la défense de communiquer avec le prisonnier. Le lendemain, le portefeuille de la police fut donné à Savary. Pour cette fois, c'était une véritable disgrâce. J'eusse fait sans doute une prédiction trop pressante en rappelant les paroles du prophète « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Mais j'aurais pu prédire sans me tromper que dans moins de 4 ans, l'empire de Napoléon n'existerait plus.